Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h à Abidjan, 11h temps universel, en Côte d'Ivoire donc. Ouverture aujourd'hui du 5e sommet Union africaine, Union européenne. Plus de 80 chefs d'État et de gouvernement sont dans la capitale ivoirienne pour participer à cette rencontre. Notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Toukara, nous parle des enjeux de ce sommet.
Coopération sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme, relations commerciales avec les accords de partenariat économique, crise migratoire, ce sont là autant de dossiers au menu de ce 5e sommet Union africaine, Union européenne. Un sommet qui devrait également permettre aux participants d'examiner le plan d'action 2014-2017 adopté il y a 3 ans à Bruxelles lors du précédent sommet. L'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah.
Nous voulons hisser les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine à un niveau de partenariat stratégique. C'est de permettre d'arriver à avoir un accord entre les deux parties, et c'est sur lequel on travaille, un accord gagnant-gagnant, qui permette pas seulement à l'Union européenne d'être le donateur, mais de traiter avec nos partenaires européens d'égal à égal, sur un cadre d'investissement sur des projets tangibles et sur des chiffres précis.
Pour le Sénégalais Papa Thiam, entrepreneur et ancien fonctionnaire à la Banque mondiale, l'Europe doit accompagner l'Afrique dans sa politique d'industrialisation.
L'Europe a du chômage, elle a de la pauvreté qui se crée, mais elle a la différence. L'Afrique a eu toujours tout ça, mais elle a des perspectives économiques fondées sur la transformation des ressources. Cette transformation exige du capital, exige de l'expertise, de la technologie dont l'Europe dispose. Donc la survie de l'Europe aujourd'hui ne devrait plus dépendre de l'accueil des matières premières ou de l'intérêt d'un ou deux, trois groupes, mais de créer un véritable partenariat stratégique, économique et industriel où ils apportent ce qu'ils ont à des niveaux spécifiques de la chaîne de valeur et les Africains apportent ce qu'ils peuvent. Comme ça, nous sommes dans une logique d'intégration dans la globalisation qui est partagée.
Investir dans la jeunesse pour un avenir durable, c'est le thème choisi pour ce sommet. Un thème qui n'est pas fortuit. 60% de la population africaine à moins de 25 ans et faute de perspective, les jeunes sont de plus en plus enclins à prendre le chemin de l'immigration clandestine. Et le scandale de la vente des migrants africains comme esclaves en Libye est venu mettre Européens et Africains face à leurs responsabilités. Mohamed Idriss Farah, ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de son pays auprès de l'Union africaine.
Déclaration qui est prévue, qui va sortir, qui condamne fortement ce crime contre l'humanité, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Chercher les acteurs criminels qui sont derrière ça et les traduire devant la Cour pénale internationale.
C'est la première fois que ce sommet Union africaine-Union européenne se tient en Afrique subsaharienne. Un beau coup diplomatique et médiatique pour la Côte d'Ivoire. Georges Ibrahim Toukara, Abidjan, VOA Afrique.
Le Brésil se prépare à envoyer au moins 750 casques bleus en Centrafrique d'ici mars ou avril. Antonio Guterres, patron de l'ONU, avait demandé un renfort de 900 casques bleus pour la MINUSCA. Abdourahmane Dia.
Le Brésil a déjà reçu une demande officielle de l'ONU pour l'envoi de soldats en Centrafrique. Cette demande doit être acceptée par le président brésilien Michel Temer et validée par le Congrès. Nous n'avons pas de délai précis, mais nous pensons que nos forces iront en Centrafrique d'ici mars ou avril, a déclaré le général Ajax Porto Pinheiro, dont les troupes ont quitté Haïti début septembre après 13 ans de présence. Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de maintien de la paix à l'ONU, qui se trouvait au Brésil cette semaine, a rappelé que le Conseil de sécurité a adopté au début du mois une résolution renforçant de 900 hommes la MINUSCA qui a débuté en 2014, compte aujourd'hui près de 12 500 membres. Dimanche dernier, un casque bleu égyptien a été tué dans une embuscade dans le sud du pays, portant à 13 le nombre de casques bleus tués en Centrafrique cette année.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a rejeté les accusations de la justice américaine. Un tribunal de New York le soupçonne d'avoir reçu des pots de vin dans une affaire d'attribution de droits pétroliers à une compagnie chinoise. Yacouba Ouedraogo.
Vous avez entendu que le président Déby a été corrompu par une entreprise pour 2 millions de dollars. C'est vraiment rigolé, s'est exclamé le chef de l'État tchadien. Il a affirmé que ces accusations obéissent à un agenda caché qui vise à détruire son pays, ajoutant que le Tchad est souverain et sa souveraineté ne se marchande pas. C'était à l'occasion du 59e anniversaire de son pays. Le 20 novembre, l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cher Gadio, et un responsable d'une entreprise basée à Hong Kong et aux États-Unis ont été inculpés par la justice américaine. Ils sont accusés d'avoir corrompu de hauts responsables du Tchad et de l'Ouganda pour obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise. Le président Déby aurait reçu 2 millions de dollars pour garantir des droits pétroliers à l'entreprise chinoise sans passer par un appel d'offres international. L'ancien ministre sénégalais est accusé d'avoir joué un rôle dans cette affaire. Cher Gadio a bénéficié lundi d'une remise en liberté sous caution, mais devra comparaître le 18 décembre devant le juge à New York.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en visite au Kenya, a annoncé que son pays allait ouvrir une ambassade au Rwanda en vue de renforcer l'influence diplomatique de l'État hébreu en Afrique. John Lyndon.
Nous allons ouvrir une ambassade à Kigali, a indiqué le bureau de Benjamin Netanyahou à l'issue d'une rencontre avec le président rwandais Paul Kagame au Kenya. L'ouverture de cette ambassade fait partie de l'extension de la présence d'Israël en Afrique, a ajouté le premier ministre. Benjamin Netanyahou, qui est également ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé que son pays cherchait à obtenir le statut d'observateur au sein de l'Union africaine. Sa visite à Nairobi coïncide avec l'investiture du président Uhuru Kenyatta, qui a prêté serment hier à Nairobi. C'est la troisième visite en 18 mois de Benjamin Netanyahou en Afrique et la deuxième au Kenya. Il s'était rendu en juillet 2016 dans quatre pays africains, dont le Rwanda, et le président Paul Kagame a effectué une visite en Israël en juillet dernier.
Au Cameroun, quatre militaires ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi. Dans le sud-ouest, en zone anglophone, les faits se sont produits à Agborkem, German, où se trouve un poste avancé de l'armée camerounaise à la frontière du Nigeria, dans le département de la Manyou. Les assaillants seraient venus du Nigeria voisin et ont traversé la frontière du Cameroun pour le Nigeria. Ce nouvel incident porte à 8 le nombre de militaires camerounais tués en zone anglophone en moins d'un mois dans des attaques attribuées par le gouvernement aux séparatistes anglophones. Un djihadiste présumé a été tué par l'armée tunisienne lors d'une opération dans la zone montagneuse de Kasserine. C'est dans le centre-ouest de la Tunisie, ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère tunisien de la Défense. Aucun militaire n'a été blessé dans cette opération qui est toujours en cours selon les autorités tunisiennes, sans vouloir donner d'autres détails. L'essor d'une mouvance djihadiste en Tunisie depuis la révolution de 2011 est responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats, de policiers, de touristes, mais aussi de civils. À Washington, il est 6h07.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le Kremlin a dénoncé aujourd'hui une provocation après le nouveau tir de missile balistique effectué par la Corée du Nord et a appelé toutes les parties à garder leur calme. La Corée du Nord a affirmé aujourd'hui avoir réalisé son objectif, devenir un état nucléaire après avoir testé avec succès un nouveau missile intercontinental qui met la totalité du continent américain à sa portée. Ce tir, le premier effectué par Pyongyang depuis le 15 septembre, a anéanti les espoirs que la trêve observée par la Corée du Nord ait eu pour objectif d'ouvrir la porte à une solution négociée à la crise suscitée par ces programmes nucléaires et balistiques. Tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de se réunir en urgence, le président américain Donald Trump a pour l'instant réagi avec parcimonie. On va s'en occuper, a déclaré le locataire de la Maison Blanche, tout simplement. La première ministre britannique Theresa May a entamé hier soir une visite de 3 jours au Moyen-Orient, au cours de laquelle elle doit s'entretenir avec des dirigeants jordaniens et saoudiens pour tenter de renforcer les liens entre le Royaume-Uni et cette région. La chef du gouvernement doit rencontrer notamment aujourd'hui le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, avec qui elle va aborder notamment la question du Qatar et du Yémen. Et puis le parquet d'Istanbul a émis aujourd'hui des mandats d'arrêt contre 333 militaires soupçonnés de liens avec les putschistes qui avaient tenté de renverser le président Recep Tayyip Erdogan en juillet 2016. Ils sont soupçonnés de faire partie du réseau du prédicateur Fethullah Gulen, auto-exilé aux États-Unis et à qui Ankara a amputé le coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Jean-Roger Billon à ce microphone. Le prochain journal dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francisca. Merci pour votre soutien. À tout à l'heure avec Henri.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Turn it up, turn it up, turn it up.